Eh ben ça y est, c'est parti. J'aime bien cette transition un peu acrobatique avec Vibrant Soleil juste avant, mais à la rigueur tant mieux, parce que comme quand je viens en voiture, j'écoute Vibrant Soleil, ça me met une pêche, ce qui est un peu dangereux d'ailleurs, parce que je pense que je dépasse un peu la vitesse en fait, tellement je suis emballé par ce qui se passe pendant l'heure juste avant, avec la culture portugaise, et juste après c'est la culture scientifique, c'est Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes en direct, donc je salue Georges, alors, de Claire et Net, c'est ça qui est notre auditeur fétiche aujourd'hui, donc j'espère qu'il va rester à l'écoute de l'émission Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, on s'intéresse un peu à l'actualité scientifique, on va parler d'Ariane, qui a réussi son 250e lancement, ça y est. Elle est grande maintenant, c'est une grande fille. Et puis on va parler un petit peu de l'actualité, peut-être un petit peu moins gay, parce que le réchauffement climatique se confirme et on apprend qu'il y a des espèces animales qui vont disparaître, quand même maintenant s'en rendre compte et l'accepter, notamment le poisson Nemo, qui va peut-être bientôt nous dire au revoir. On verra tout ça dans cette émission. 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct, n'hésitez pas. Je veux battre le record de SMS reçus. Je vais essayer de lancer cet appel à vous tous. 06 95 065 026, Jean-Noël avec vous pendant une heure pour cette émission Biotine. C'est vrai que nous sommes déjà le 30 novembre. Ça passe à une vitesse. Il fait froid, j'étais gelé dehors, mais dans le studio on est très bien. C'est la journée internationale des villes pour la vie. Ça commémore en fait la première abolition permanente de l'époque moderne. C'était en Toscane et donc on s'est dit tiens, on va faire une journée pour la vie le 30 novembre. Eh bien écoutez, profitons de la vie. C'est vrai que c'est à la rigueur un très bon programme pour cette journée. En 2015, l'Union européenne de radio-télévision, oui, ça existe, souhaite inclure des récepteurs numériques dans tous les appareils de radio. Il y a 4 ans, c'était un petit peu le début, voire l'essor de la radio numérique terrestre. C'est assez récent finalement. Finalement, il y a 4 ans où il y a eu cette décision de pouvoir inclure les récepteurs numériques. Et maintenant, bien sûr, c'est en plein essor. Au niveau de l'éphéméride, le 30 novembre, la naissance en 1810 à Boston, il y a longtemps et c'est loin, d'Oliver Fisher Winchester. Winchester, tiens, il a été homme politique, il a été homme d'affaires, il a été ingénieur, il a été inventeur et en fait il était à la tête de la Winchester, je vais pas y arriver, Winchester Repelling Arms Company, en fait ce sont les fusils bien sûr qui portent le nom de cet homme qui a eu était quand même au niveau affaires un bel homme d'affaires, il a bien fait fortune, son fils reprend l'entreprise familiale, ça fonctionne bien mais il meurt peu de temps après, si bien qu'on va confier ça à la femme du fils, et là ça se dégrade, c'est-à-dire que du coup elle est un petit peu dépassée par les événements, elle est même atteinte de folie par le fait qu'elle est totalement dépassée par le commerce des armes. Nous sommes à la fin des années 1890 et eh bien, elle va précipiter un petit peu le déclin de l'entreprise, de cette entreprise Winchester. Mais donc le créateur et l'inventeur, Oliver Winchester, était donc né un 30 novembre 1810. Au niveau des décès, on peut mentionner le décès le 30 novembre 1761, mon Dieu, il y a aussi assez longtemps, de John Dolan. C'est un ingénieur opticien britannique, il a une vie vraiment intéressante, il s'intéresse à plein de choses, du latin, du grec, des maths, des physiques, de l'anatomie, vous savez, c'est un petit peu l'époque où on touchait vraiment à tout et on était vraiment érudit dans tous ces domaines. Et on va lui attribuer un petit peu l'invention des lentilles achromatiques. En fait, on va dire plutôt que lui, il a popularisé plus qu'il ne l'a inventé, parce qu'en plus, il était malin, parce que lui, il a déposé les brevets, mais ce sont les autres un petit peu qui ont inventé. Mais c'est un peu son nom qu'on a conservé, celui de John Dolan. Mort le 30 novembre 1761. Voilà pour cette éphéméride de ce 30 novembre. Vous le savez, 2019 est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev et nous allons continuer à remplir cette espèce de tableau qu'on avait dans nos salles de classe. On remplit toutes les semaines dans cette émission Biotine une case et aujourd'hui, on va remplir la case 27, c'est le cobalt qui a la particularité de conserver ses propriétés magnétiques jusqu'à des températures élevées. Et On va pouvoir composer, par exemple, des aimants qui vont pouvoir être utilisés dans des moteurs turbo. Son point de fusion est tellement élevé, près de 1500 degrés. Donc, effectivement, pour atteindre cette température, il faut quand même en vouloir. Ça permet la fabrication d'alliages de grande résistance, donc même à des températures extrêmes. Alors, il y a le bleu de cobalt, qui est peut-être un nom qu'on connaît un peu plus, qui est synthétisé pour la première fois en 1802 par Louis-Jacques Thénard, et son frère, qui était alors Premier ministre, lui avait demandé de trouver un remplaçant au bleu outre-mer naturel qui était trop coûteux. Et donc, du coup, on va produire le bleu de cobalt, produit à partir d'aluminate de cobalt, qui est utilisé donc comme pigment. Alors, comme pigment depuis longtemps, dès l'Antiquité, mais en fait, il va pouvoir un petit peu l'industrialiser, entre guillemets. Le cobalt a d'abord été extrait de minerais à la base d'arsenic avec, quand on essayait d'extraire ce cobalt, on produisait de la fumée d'oxyde d'arsenic. C'est très toxique, faut faire attention. Donc, on va essayer un petit peu de trouver des solutions pour pouvoir extraire ce minerai d'une façon un petit peu plus sécurisée, on va dire. Le cobalt est aujourd'hui l'un des métaux dont les réserves sont les plus critiques, et c'est un vrai problème, parce qu'on a besoin de cobalt, on a vraiment besoin pour les batteries, pour les aimants supraconducteurs, et on estime que les réserves en cobalt, elles sont estimées à 75 ans pour l'instant, ce qui n'est pas énorme, franchement. Le problème, c'est qu'on en a tellement besoin que cette demande, elle continue de croître, ça n'arrête pas, qu'on estime que d'ici 25 ans, il n'y en aura plus. Donc il va falloir trouver des solutions, mes enfants, au cobalt, parce que ça va devenir maintenant une denrée rare. Le cobalt, symbole chimique grand C petit O, c'est facile. Facile, cobalt, donc CO, ça va. Et c'était la case numéro 27 dans ce tableau périodique des éléments. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va donc parler de l'actualité scientifique que nous allons feuilleter pendant cette petite heure. Et puis, on retrouvera bien sûr Anne Fleur, qui nous propose de nous intéresser à une ville ou un pays et de savoir un petit peu qu'est-ce qui a été découvert dans cette ville. Donc je pense qu'on va partir au niveau des États-Unis pour cette semaine. C'est le programme que je vous propose dans cette émission Biotine, émission de science et de technologie, mais aussi émission musicale avec, écoutez, ce premier titre que je vais découvrir en même temps que vous. Alors je vous préviens, aujourd'hui la programmation musicale va être totalement improvisée. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend, mais en tout cas, comme on m'a laissé dans le studio cette programmation toute prête, je suppose que les musiques que nous allons entendre, les titres que nous allons découvrir ensemble seront de bonne qualité. Allez, c'est parti, à tout de suite sur l'antenne de Graphite. Ah oui, alors, ça commence bien, parce que du coup j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je vais vous expliquer, c'est que c'est totalement une improvisation magnifique. Allez, c'est parti, cette fois c'est bon.
Jésus, prophète, égal, saint, mais humain, égal, singe.
Jésus, prophète, égal, saint, mais humain, égal, singe.
Jésus, prophète, égal, saint, mais humain, égal, singe.
Cobaye Breton, un cobaye à briser. Nombreuses cicatrices, un visage abîmé.
Dans le regard, il a compris ce qu'il a vu dans les centres, ne serait que dans les sangs. Dans ce regard, on y voit plus que de la violence à l'essence, brûlant dans un tas de sens. Quand on tape état, toute ta life c'est poutard, font que ta gueule s'est remplie de grosses balades. Tant qu'on demande la vie, les amis, comme Harry, font qu'à la fin de la scène, t'as la haine toute ta vie. Rallié sous les ordres de César, caché sous les arbres, penchant pour les armes. Moi je ne serai jamais ta chienne, trouver des preuves alléchantes, ma race s'oppose à la tienne, je te propose un échange.
Yes, fucking son. Ces BD m'ont fait croire que je n'étais qu'un pantin.
Attends, attends.
J'en ferai sauter la tête quand viendra un moment opportun.
Attends,
bang. Tu le bruit du seul, Mioto. Si faut niquer des humains, et bien on nique des humains. Si quelques putes nous veulent du mal, on va les mettre au fond du trou. Ils nous ont pris tout, en voulant trop. Dans nos prisons tous, tu es sans une trace.
Tu es sans une trace.
Un peu très près à tout, c'est jamais bon pour faire rouler son business. Mais après tout ce qu'il a vécu, il reste que lui et l'après-coup. Et quelques gangsters prêts à tout, avec un putain d'appétit. Je suis pas censé revoir ma cage de bête, c'est mort les potes de merde, c'est pour ceux qui nous volent demain. L'essentiel c'est de savoir, les sensibles rien à voir. L'essentiel dans le pouvoir c'est de le prendre, c'est de l'avoir. L'essentiel dans le pouvoir c'est de le prendre, c'est de l'avoir. Ouais. L'essentiel dans le pouvoir c'est de le prendre, c'est de l'avoir.
Prédateur, c'était Goodson, pardon, sur l'antenne de Graphite. C'est bien, ça change. C'est le nouvel album de Goodson. Je vais y arriver ou pas? Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est la fin de l'année qui approche. Je crois que c'est la fatigue, mes enfants. En tout cas, cet amateur prédateur, c'est bien au moins. Ça nous permet de découvrir des nouveaux artistes français sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Si vous n'êtes pas trop réveillé comme moi, vous pouvez donc envoyer un 06 95 065 026, un petit SMS, un petit message pour nous dire que vous écoutez l'émission, c'est très sympa. Et si vous souhaitez également réagir sur l'actualité scientifique, n'hésitez pas. L'actualité, alors cette semaine, pas mal de choses au niveau de Ariane. Alors je vous disais donc que Ariane 5 s'était lancée mardi soir de Kourou en Guyane française pour placer en orbite géostationnaire deux satellites de télécommunications. Le lanceur qui a donc décollé aux environs de 22h20 heure française, heure de Paris on va dire, devait placer donc en orbite deux satellites de télécommunications, le premier pour le compte du gouvernement égyptien, le second pour l'opérateur britannique Inmarsat. La durée de la mission était d'environ 34 minutes, ok, c'est rapide. Le lancement était hautement symbolique bien sûr puisqu'il s'agissait du 250e vol d'une fusée Ariane. Mon Dieu, quand même, bravo! Félicitations, 250e vol. En fait, bon, ça s'est bien passé, mais ça a été reporté au moins deux fois, parce qu'au départ, c'était programmé le 22 novembre. Donc le 22 novembre, c'était vendredi de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été reporté une première fois lundi dernier, et cela en raison d'une anomalie. Donc ça, c'est le grand terme consacré pour dire qu'il y a une couille dans le potage, en clair. En tout cas, c'est ce qu'avait annoncé Ariane Espace. Puis lundi, on apprend que les conditions météorologiques sont défavorables. Il faut dire que c'est la saison des pluies en Guyane, donc effectivement, c'est peut-être pas toujours facile de pouvoir décoller dans les bonnes conditions. Donc il y a eu un second report 24 heures plus tard, et c'était donc mardi soir, heure parisienne, que cela a pu bien se passer. Heure parisienne 22h. En tout cas, il est quand même 18h23 à Kourou quand ça se passe. Donc c'est quand même aussi la fin de journée, la fin d'après-midi où ça se met en place. Le satellite de télécommunication civile et gouvernemental égyptien est donc le quatrième à être lancé par Ariane Espace pour le compte donc de l'Égypte. Sa masse au décollage est de 5600 kilos, oui, effectivement, c'était un peu mieux. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans pour donc le premier satellite. satellites. Le deuxième, c'est donc un satellite de télécommunication mobile qui fournira plus de capacités que l'ensemble de la flotte qui est déjà en orbite et qui permettra donc la hausse rapide de la demande de services de ses clients en Europe et au Moyen-Orient, en particulier pour les connexions Wi-Fi sur les vols commerciaux et pour les services maritimes commerciaux. Le commerce derrière, tout le monde veut avoir accès maintenant au réseau où qu'il soit, donc on envoie des satellites. Merci Ariane Espace. La durée de vie de ce deuxième satellite est estimée à plus de 16 ans. Et après, on n'en sait rien, c'est-à-dire que c'est hop dans l'espace, puis d'ici 15-16 ans, d'ici là, on verra ce qu'on en fera. Pour l'instant, ça tourne comme plein d'autres satellites également. On en avait parlé de cette pollution de l'espace. Il y a de la pollution partout et maintenant il y a de la pollution dans l'espace. On ne s'en sortira pas, mes enfants. Nous vivons une période difficile et notamment difficile pour le petit Nemo, pour ces poissons clowns qu'on connaît grâce au film de Disney, je crois. En tout cas, le poisson clown qui s'appelle, parce qu'il faut toujours un terme scientifique compliqué, Amphiprion percula, c'est le vrai nom de ce poisson clown, eh bien on apprend qu'il n'a pas la capacité génétique de s'adapter aux modifications de son environnement. C'est une découverte, alors je le prends ça un peu à la légère, à la rigolade, mais non, c'est vraiment une découverte inquiétante, parce que les récifs coralliens vont évoluer rapidement, bien sûr, sous l'effet du changement climatique, évidemment, et des activités humaines. Donc, on sait très bien comment, à quoi il ressemble, hein. Il est une espèce de teinte un peu orange brillant avec des bandes blanches. Il vit, ce poisson, spécifiquement dans les anémones qui se trouvent dans les récifs coralliens. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète, c'est ce que explique Benoît Pujol, qui est chercheur du CNRS et qui est notamment l'auteur de cette étude qui a été publiée cette semaine dans la revue Ecology Letters. Les récifs coralliens sont menacés. Maintenant, on le sait, il y en a déjà 20% qui sont déjà détruits. Il y en a 15% qui risquent de l'être d'ici une dizaine d'années. Il y en a 20% qui sont menacés d'ici 40%. C'est bien sûr menacé d'une façon générale par le réchauffement climatique, par la pollution, par l'aménagement des côtes également, par la surpêche et aussi l'accroissement démographique. Bref, c'est un peu le corail qui morfle dans cette affaire. Or, après avoir suivi justement quelques poissons des lagons de l'île de Kimb, nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on les a suivis, ces poissons, pendant 10 ans, et bien cette équipe de chercheurs a découvert que les poissons clowns n'avaient donc pas la capacité génétique de s'adapter à ces changements environnementaux. Parce que le succès reproducteur dans une population, c'est le garant de son adaptation, c'est ce qu'explique Benoît Pujol, et les chercheurs, ils ont découvert que le poisson clown, il ne possédait pas de variant génétique qui lui permettait justement de modifier sa reproduction. Il ne pourra donc pas contrecarrer, ou tout au moins compenser les effets néfastes sur sa fécondité, les effets néfastes des modifications de son propre environnement par une adaptation génétique. Par contre, son habitat, lui, influence très fortement ce succès reproducteur. C'est ce qu'expliquent aussi les chercheurs. Il faut dire que les poissons clowns restent toute leur vie dans la même anémone. Ils y pondent leurs œufs. Ils se protègent aussi des prédateurs. Ils se cachent un petit peu dans les tentacules de l'anémone. Et Benoît Pujol explique que c'est pas trop montré dans le dessin animé, mais le poisson clown, il a un cycle de vie qui est assez particulier, parce que chaque anémone va héberger une femelle, un mâle et un certain nombre d'individus mâles qui ne sont pas actifs sexuellement. Et tout ça dans une anémone. Si la femelle meurt, eh bien le mâle, on va dire officiel, va devenir femelle, extraordinaire la nature, et on se rend compte que le plus grand des individus qui n'était pas actif sexuellement, eh bien, une grande partie va devenir reproducteur. Et c'est comme ça que le cycle va se faire au sein même d'une anémone. Et donc les chercheurs veulent essayer de déterminer dans quelles conditions et où les poissons clowns vont se reproduire le mieux, mais c'est une vraie inquiétude pour Nemo, parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas capable de s'adapter au changement climatique. Et voilà, il va falloir maintenant peut-être essayer d'agir pour essayer de le protéger, ce petit Nemo, car c'est une vraie contrainte. Il a beau être joli, mon petit gars, il va falloir maintenant essayer de te battre, ou en tout cas essayer de t'aider à te battre. C'est voilà, un petit peu aussi l'inquiétude de cet article qui a été diffusé cette semaine. On en a parlé dans certains médias, peut-être en avez-vous également entendu déjà parler, mais en tout cas, on s'inquiète un petit peu de cela. Autre chose, c'est c'est cet article qui est relayé dans le site Futura Science. Et quand j'ai lu l'article, je me suis dit, tiens, ça devient de la science-fiction, mais d'une façon un peu particulière, parce qu'on va parler d'un patient qui a été placé pour la première fois dans un état de vie suspendue, entre guillemets, et on vient de le ressusciter avec succès pour la première fois lors d'un essai qui a été mené à l'université du Maryland. C'est ce que rapporte il y a quelques jours le site New Scientist. En fait, ce patient a été placé plus de 2 heures dans un état de vie suspendue. C'est une technique qu'on appelle EPR. Cette technique, elle consiste à placer l'organisme dans un état d'hypothermie profonde. Donc hypothermie, c'est-à-dire qu'on va baisser la température du corps énormément, parce qu'on est entre 10 et 15 degrés, donc pour un corps c'est quand même assez important, et en fait on va remplacer le sang de l'individu par une espèce de solution un peu salide, donc à base de solution avec du sel, de manière à pouvoir ralentir un petit peu le métabolisme général du corps. La circulation sanguine, elle est ainsi complètement stoppé, ainsi que l'activité cérébrale, ce qui va permettre un petit peu de retarder les réactions chimiques qui vont détruire normalement les cellules qui ne sont pas alimentées en oxygène. Si on prend un corps à température normale, c'est-à-dire à 37 degrés à peu près, le cerveau humain ne résiste normalement que 5 minutes sans être irrigué. Après, c'est compliqué. Là, ça a duré 2 heures. Et on peut considérer qu'à cet instant, le patient est en état de mort clinique. Plus de circulation de sang, l'activité cérébrale également qui est stoppée, l'activité cardiaque qui est maintenue de façon artificielle sans plus, parce qu'étant donné qu'il n'y a plus de circulation sanguine, il n'y a même plus besoin d'avoir une activité cardiaque. Et à ce moment-là, les chirurgiens disposent alors de 2 heures maximum pour opérer le patient, avant que ce dernier ne soit réanimé, en remplaçant progressivement cette espèce de liquide de refroidissement par du sang qu'on aura préalablement un petit peu réchauffé. Et donc on remplace et on remet du sang chaud dans son corps. Le cœur doit ensuite redémarrer après une réanimation cardiaque. La procédure, elle est très risqué, bien sûr, parce que le patient peut développer une espèce de syndrome de reperfusion. C'est ce qu'on explique lorsqu'il y a un petit peu un processus d'irrigation qui se remet en place dans le corps et il y a un ensemble de troubles qui peuvent avoir lieu. Donc c'est très risqué et ça peut être aussi très dommageable. Les réanimateurs utilisent déjà ce type de traitement pour les cas critiques de blessures par balle ou par arme blanche et... c'est-à-dire des personnes qui ont déjà subi un arrêt aussi cardio-respiratoire ou une hémorragie assez importante. Et leurs chances de survie ne dépassent généralement pas les 5%. C'est très peu, bien sûr. Mais il s'agit de versions moins agressives qui reposent sur un refroidissement un peu externe de l'organisme, associé, en fait, là, on va vraiment remplir un petit peu le corps avec une autre solution. C'est assez impressionnant. On ne voudrait pas trop voir les images de ça. Des expériences de vie suspendue, donc de ce que l'on vient de voir et d'apprendre, ça a déjà été réalisé avec succès sur des cochons il y a 2 ans. On en avait déjà parlé dans cette émission et on avait pu réanimer, après 3 heures d'arrêt total de leur circulation sanguine, on avait pu réanimer ces cochons. Et donc là, maintenant, on a fait l'expérience grandeur réelle sur un être humain. Le test a été mené par Samuel Tischermann, qui est pionnier de cette technique EPR assez particulière à l'université donc du Maryland. Et ça implique une vingtaine de patients et ça devrait se terminer début 2020, où les résultats complets de cette étude seront dévoilés. Donc là, on a eu juste une petite partie de cette information. Donc on en saura plus, mais selon la revue The New Scientist, l'un des patients aurait donc déjà été opéré avec succès et on a pu le réveiller par la suite. Et puis, comme c'est un petit peu particulier, eh bien, la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'autorité américaine qui va gérer un petit peu, c'est un petit peu le côté, comment on pourrait avoir l'équivalent en français, un petit peu la DAS, enfin, en tout cas le côté un petit peu d'avoir un consentement des patients pour accepter cette opération, eh bien, cette autorité américaine a dit qu'il ne faut absolument pas attendre le consentement des patients qui sont dans un état quand même assez déplorable. Donc si on attend qu'ils disent oui, ils sont déjà morts depuis longtemps. Et donc la Food and Drug Administration a autorisé ces essais sans attendre le consentement des patients. Ces tests pourraient non seulement bien sûr sauver des vies humaines, bien évidemment, mais aussi amener à une redéfinition un petit peu des critères de la mort qui sont aujourd'hui basés sur l'absence d'activité électrique du cerveau. Et donc là, on a vraiment passé un stade ultime parce qu'il était donc mort, cet homme, selon les critères actuels de la mort des patients, et on a pu le ressusciter. C'est une expérience, vous l'avez compris, qui est totalement récente, on n'a pas encore tous les éléments, on va attendre début janvier 2020 pour en savoir un peu plus, mais c'est assez étonnant parce qu'on est maintenant dans une étape totalement réaliste de films de science-fiction qu'on a tous vu au moins une fois, et là maintenant ça s'est passé au Maryland. C'est Biotine, l'émission de science de technologie et de médecine que vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. On continue aussi à feuilleter un petit peu la musique dans cette émission et on se retrouve juste après pour continuer à comprendre ce qui se passe. Tiens, dans notre quotidien, on a bientôt des robots qui vont trier nos déchets. Ah mon Dieu, du travail en moins à faire.
Je suis ici, étonné d'être en vie parce qu'il pleut sur le toit. Encore beaucoup, merci parce que la vue est belle. J'ai le temps, j'ai la nuit, Tom White c'est au piano. Et je le remercie parce que je manque de tout et de rien jusqu'ici. Il me reste de l'envie, encore beaucoup. Merci, un peu de bonheur. Dans les haut-parleurs, écoute sa petite sœur. Au revoir, chagrin, ce n'est pas un adieu. Tout le monde sait très bien que tu sais être odieux. Ne serait-ce qu'à la fin, quand on voudrait la paix. Tu reviens et de loin, le bras plein de regrets. Au revoir, chat noir, drôle de petit oiseau. Ne reviens pas me voir, on prend ton temps, salaud. Tu connais le trottoir que prennent les gens heureux. Et pour une larme à boire, tu leur crèverais les yeux. Et pour une larme à boire, tu leur crèverais les yeux. Parce que je n'ai rien à déclarer, rien à perdre, tout à gagner. Rien à vendre, rien à cacher, encore beaucoup. Merci tant que la révolte demeure. Plein la tête, plein le cœur, jamais je ne m'endormirai. Encore beaucoup, merci, un peu de bonheur. Dans les haut-parleurs, écoute sa petite sœur. Au revoir chagrin, ce n'est pas un adieu. Tout le monde sait très bien que tu sais être odieux, ne serait-ce qu'à la fin, quand on voudrait la paix. Tu reviens et de loin, les bras pleins de regrets. Au revoir, chat noir, drôle de petit oiseau. Ne reviens pas me voir, ou prends ton temps, salaud. Tu connais le trottoir, que prennent les gens heureux. Et pour une larme à boire, tu leur crèverais les yeux. Au revoir, chagrin, ce n'est pas un adieu. Tout le monde sait très bien que tu sais être odieux. Ne serait-ce qu'à la fin, quand on voudrait la paix. Tu reviens et de loin, les bras pleins de regrets. Au revoir, chat noir, drôle de petit oiseau. Ne reviens pas me voir, ou prends ton temps, salaud. Tu connais le trottoir, que prennent les gens heureux. Et pour une larme à boire, tu leur crèverais les yeux.
Da Silva avec Au revoir chagrin sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison, je vous en remercie. On va parler de cette entreprise qui s'appelle X, qui est une entreprise vraiment discrète. Avant, on l'appelait Google X. Elle est tellement discrète qu'elle a enlevé le nom de Google et maintenant elle s'appelle X. Et cette firme travaille sur des projets technologiques à long terme qui ressemblent plus souvent à de la science-fiction. On y revient encore. Et elle ne communique d'ailleurs que très rarement sur ses projets. Et bien, dans un article publié sur son blog, cette société X a dévoilé ses ambitions dans le domaine de la robotique avec un exemple concret d'un robot pour trier les déchets. La firme établit un parallèle entre l'état actuel de la robotique et les débuts de l'informatique dans les années 60-70, quand les ordinateurs étaient des machines auxquelles seuls les spécialistes avaient accès, et donc ils prévoient une évolution similaire imminente avec des robots omniprésents au quotidien, comme par exemple notre smartphone actuel. Maintenant, ça y est, ils sont dans notre vie quotidienne, et bien la prochaine étape, mes enfants, ce sont les robots. Et pour montrer ces progrès, l'entreprise a présenté un robot conçu pour trier les ordures, en commençant avec celles qui se trouvaient déjà dans leur bureau de la société X, et elles se sont jetées dans trois poubelles différentes, ces ordures. Donc c'est d'un côté le compost, de l'autre le recyclage, et le troisième ce sont les ordures ménagères. Et avec un système de tri manuel, c'est-à-dire que si c'est nous qui le faisons, bien sûr, environ 20% des poubelles contiennent un élément mal trié, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé dans le tri, ou alors qu'on n'a rien à faire. Et ils ont donc décidé de confier la tâche à un robot, car celle-ci représente un vrai défi. Plutôt que de programmer les robots pour effectuer le tri, qui est une tâche à la fois très longue et fastidieuse, et qui ne permet aucune adaptabilité, eh bien ils ont décidé de faire appel à l'intelligence artificielle et à ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que, eh bien, ces robots vont apprendre tout seuls, comme des grands à trier tout ça, et ils se sont donc associés avec les équipes de Google Intelligence Artificielle pour entraîner ces robots. Et pour accélérer l'apprentissage, ils ont créé d'abord des robots virtuels qui vont donc travailler dans un environnement virtuel, et chaque nuit, eh bien, ces milliers de robots dans cette espèce de simulation virtuelle, on va essayer d'effectuer des tris d'ordures, des ordures virtuelles bien sûr, pour pouvoir s'entraîner. Et ainsi, eh bien, l'expérience qu'ils vont pouvoir acquérir, elle va pouvoir être transférée sur des vrais robots qu'ils vont pouvoir mettre en pratique, concrètement, dans le monde réel. Et ils vont continuer aussi cet apprentissage et ce sera partagé avec tous les robots. Le cycle se répète ainsi. Les machines apprennent donc entièrement par l'expérience et non par une programmation manuelle qu'on aurait fait auparavant. Au final, les robots, ils ont obtenu des résultats très prometteur, parce que je vous disais il y avait 20% d'erreurs dans le tri manuel, eh bien les robots ont pu réduire ce chiffre à seulement 5%, donc effectivement c'est pas mal. Les chercheurs ont ainsi pu prouver la capacité des robots à apprendre par eux-mêmes dans le monde réel, plutôt que de dépendre d'une programmation stricte qu'on aurait pu mettre en place auparavant. La prochaine étape sera de voir si l'expérience acquise peut être transférée sur d'autres tâches sans avoir besoin de reconstruire le robot ou de réécrire une partie de la programmation. Mais voilà que Google va donc se lancer dans ce robot qui va trier nos déchets. L'application est intéressante bien sûr, mais on a bien compris derrière, c'est tout cet apprentissage automatique qui est un petit peu le côté fort de cet article et de cette donc découverte, en tout cas de cette communication de Google. Ils sont discrets, mais ils communiquent quand même pas mal. On va rejoindre Anne Fleur. Toutes les semaines, Anne Fleur choisit une ville et nous parle des inventions qui ont été créées dans cette ville. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle nous emmène. J'ai un petit peu l'impression qu'on va partir encore aux États-Unis, à mon avis.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce midi. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous parle depuis les États-Unis, mais pas de Boston comme les autres fois. Alors avant-hier, c'était Thanksgiving aux États-Unis et je vous parle aujourd'hui depuis du coup mon lieu de villégiature pour ces petites vacances de Thanksgiving, c'est-à-dire de Denver dans le Colorado. Alors le Colorado, c'est où, vous me direz? Si on coupe les États-Unis en deux morceaux d'à peu près même taille du nord au sud, c'est dans le morceau de gauche, plutôt en bas à gauche, c'est dans les terres à l'est de Las Vegas. Si le Colorado est connu pour être le siège des Rocheux, ces grandes montagnes recouvertes de neige toute l'année, ainsi que ses canyons, eh bien vous me connaissez, c'est pas tout. Et je vais vous parler des inventions qui viennent de cette région. C'est parti! Alors la première invention dont je vais vous parler, c'est le sabot. Alors non, on ne parle pas de chaussures ici, attention, on parle bien du sabot que l'on accroche à votre roue avant de votre voiture afin de vous empêcher de bouger en attendant la fourrière. Saviez-vous qu'on l'appelle en fait en anglais la botte de Denver, the Denver boot? Celle-ci en fait date de 1944 et elle a été inventée par un violoniste, alors pourquoi on n'est pas complètement sûr, et ce violoniste s'appelait Monsieur Frank Marug. En fait, il aurait créé ça, a priori, pour des amis policiers. C'est pas loin de 10 ans plus tard que la police de Denver commençait à l'utiliser largement. Et en fait, ils prouvaient un peu que ça les aidait énormément, puisque en seulement 25 jours, la police de Denver collecta plus de $18,000 de PV qui avaient été non payés. C'est vrai qu'en termes de force de persuasion, c'est assez convaincant. Marug a d'ailleurs déposé un brevet à ce sujet en 1955. La deuxième invention dont je vais vous parler, on arrive un petit peu dans la saison, c'est les décorations de Noël. Alors Noël, c'est festif, mais aussi parfois kitsch, surtout aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Il paraîtrait en fait que ces décorations de Noël aient été inventées en fait au début du XXe siècle par des commerçants. Pour la petite histoire, parce que j'aime les petites histoires, vous le savez, c'était la nuit, la veille de Noël en 1914 que le petit David Sturgeon était malade et alité. Il était bien trop malade pour passer la fête avec sa famille au pied du sapin et du coup son père, qui était un électricien très connu de Denver, il a décidé d'égayer un peu son petit garçon en accrochant des ampoules vertes et rouges au sapin qui donnait sur la fenêtre de sa chambre. Et c'est vite transformé en fait comme une tradition dans la ville de Denver et la suite on la connaît puisque effectivement il y a des décorations de Noël un petit peu partout dans le monde. La troisième invention, nous allons parler d'outils pour femmes, nous allons parler de tampons. Le saviez-vous, les tampons, et même plus particulièrement les tampax, ont été inventés dans le Colorado par le docteur Earl Haas. C'est d'ailleurs aussi lui qui a inventé le diaphragme. Il voulait en fait inventer quelque chose de mieux que les serviettes pour sa femme. Il a eu cette idée, en fait, qui lui est venue d'une amie qui, elle, alors je vous donne un tout petit peu de détails, qui, elle, insérait une éponge dans son vagin pendant ses règles. Haas a donc décidé de développer un tube en coton et de déposer un brevet en 1931, donc c'est quand même pas quelque chose qui date d'hier, on est presque à 100 ans. Il a revendu son brevet pour la somme de $32,000 à une femme d'affaires de Denver, Gertrude Tenrich. Et cette Gertrude, je sais pas comment on dit, a lancé l'entreprise Tampax Girl Power. La quatrième et dernière invention dont je vais vous parler aujourd'hui, elle nous vient d'un lycéen de Denver, enfin du Colorado. Alors, est-ce que si je vous dis gants à langage des signes, ça vous parle ou ça vous dit quelque chose? Moi, perso, ça ne me disait pas grand-chose, mais je trouve cette invention vraiment super intéressante. En gros, c'est un peu digne, je trouvais, des meilleures idées issues de la science-fiction. Donc, le petit Ryan Patterson était élève au lycée de Grand Junction dans le Colorado. Et il a eu l'idée de créer, en fait, une paire de gants qui traduirait. Donc, je fais le langage des signes avec mes mains tout en portant ce gant-là. Et en fait, donc, ce gant détecte les mouvements de mes mains et va traduire cette énergie mécanique en langage oral. Cette invention, elle date de 2002. J'ai pas pu trouver trop en fait où est-ce que ça en était en termes d'implémentation ou d'industrialisation. Et depuis, pour la petite histoire, Monsieur Patterson a rejoint la NASA. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade au cœur des rocheuses américaines. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
Merci Anne Fleur. On a appris plein de choses, effectivement. On n'aurait pas pensé que le Colorado et Denver auraient été associés à tout ça. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, Anne Fleur. Avant d'écouter un petit titre, on va peut-être s'arrêter à la France qui reste quand même peu préparée face aux risques industriels. Près de 20 ans après la catastrophe AZF, la France semble toujours insuffisamment préparée aux risques d'accidents industriels au vu des auditions qui ont été menées par le Parlement sur l'incendie un peu hors norme de l'usine chimique Lubrizol à Rouen il y a 2 mois. On a su passer du toxin à la sirène au début du 19e siècle. Je pense qu'au 21e siècle, il faut que nous passions au cell broadcast, c'est-à-dire l'alerte de la population par téléphone portable. C'est ce qu'explique il y a quelques jours le préfet de Normandie, Pierre-André Durand. Il était devant la commission d'enquête du Sénat sur l'incendie de l'usine Lubrizol, une usine classée Céveso, seuil haut. C'est quand même pas n'importe quoi. Et il explique, quand sonne une sirène, il faut rester chez soi, mais qui le sait? C'est ce qu'explique donc ce haut fonctionnaire qui argumente ainsi le fait qu'il n'a déclenché les sirènes qu'à 8h45 pour un incendie qui avait débuté vers 2h30 du matin. Ce système, donc le Cell Broadcast, est pratiqué notamment aux États-Unis et au Japon, et Bruxelles demande la mise en place pour juin 2022. Ça permettrait de prévenir tout en donnant une consigne et d'éviter que des maires ne soient alertés officiellement par la préfecture que 12 heures après le début du sinistre, ce qui a été donc le cas fin septembre à Rouen. Mais pour l'Association des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, l'association Amaris, les défaillances vont bien au-delà de sirènes qui seraient inaudibles. Selon un livre blanc qu'elle a publié début novembre et qui a été cité donc par les parlementaires, la mise en protection des activités riveraines reste une étape à franchir en France. Face au problème très français d'une culture du risque assez distanciée selon le préfet, pour qu'une population ait les bons réflexes, il n'y a que les exercices à mettre en place. À ma connaissance, à l'échelle des grandes agglomérations, il n'y a aucun exercice de son côté constaté le président socialiste de la métropole, Yvon Robert, qui est lui extrêmement réservé quant à de tels exercices. Selon lui, près de 2 500 000 personnes vivent à proximité des plus de 1300 sites Céveso français. Et donc, dans la foulée de la catastrophe AZF qui avait fait, rappelons-le, 31 morts en 2001, des mesures avaient été prises, comme notamment la création des PPRT, c'est les plans de prévention des risques techniques. Et le PPRT de Lubrizol fait que l'incendie ne s'est déroulé que sur moins de 10% du site. Et le sinistre n'a pas fait de victimes. Mais cela n'a pas empêché les pompiers de manquer d'eau face à 3 hectares de feux d'hydrocarbures. On s'est aperçu que les pompiers ne sont pas forcément équipés pour aller sur des sites tels que les nôtres. C'est ce qu'a estimé la déléguée CFTC de l'usine Lubrizol. Alors, selon le Bureau des risques et pollutions industrielles, le nombre d'accidents sur les sites industriels classés a augmenté de 34% en 2 ans en France. C'est énorme et leur impact sur l'environnement est croissant. Et si le nombre d'inspecteurs est resté à peu près constant, le nombre de visites sur les sites classés a baissé depuis 2 ans. Et c'est ce qu'a expliqué le responsable CGT de cette commission d'enquête du Sénat. Il travaille sur le Lubrizol également. Bref, on se rend compte que c'est pas du tout fiable, c'est assez inquiétant. Et il y a donc maintenant une prise de conscience peut-être qui commence à se développer. Le point souvent évoqué devant les sénateurs, c'est le recours à la sous-traitance qui n'est pas neutre en matière de maîtrise des risques, notamment parce que le prestataire connaît mal ou parfois pas très bien les risques associés à des installations non familières. Les salariés du donneur d'ordre ne réalisant plus les gestes techniques peuvent perdre leur capacité à appréhender la qualité des travaux réalisés. Bref, il y a un vrai manque de culture du risque en France et la France reste donc peu préparée face aux risques industriels. Voilà, c'était quelques éléments pour cette mission parlementaire en cours, parce qu'il va falloir sûrement peut-être mettre en place un plan de prévention nationale avec une vraie prise de conscience des risques, parce qu'effectivement, il y a plus de 1300 sites qu'on considère Céveso, une espèce de classification pour dire que ce sont des risques à des sites à risque, pardon, en France, et donc 1300 sites de la sorte. Il y en a forcément un pas très loin de chez vous, donc on ne sait pas du tout quelle est la bonne réaction à faire en cas de problème. À faire, à suivre, bien sûr. Alors, on écoute un petit titre, on continue à feuilleter ensuite l'actualité scientifique dans cette émission Biotine. Vous écoutez Graphite sur graphite.net et 94.9 sur la bande FM. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. On écoute un peu de musique, on se retrouve juste après. et Mère Montée avec Acro-Amatique sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, vous écoutez Biotine, l'émission de sciences et de technologie sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous écouter en direct mais aussi en différé parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de l'émission et sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, le 94.9 sur la bande FM. Tous les samedis, on va essayer de s'intéresser, de se sensibiliser au réchauffement climatique. J'ai un peu l'impression que toutes les semaines on en parle, et il y a de quoi, parce que toutes les semaines on a quand même encore une étude qui montre que ça va pas très bien, et là c'est même l'ONU qui tire la sonnette d'alarme à quelques jours de la COP25 de Madrid. Les principaux gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux records de concentration en 2018 et aucun signe de ralentissement n'est visible. C'est ce qu'explique, c'est ce qu'annonce l'ONU d'après les scientifiques. Le dioxyde de carbone qui est associé aux activités humaines et qui constitue le principal gaz à effet de serre et qui persiste dans l'atmosphère, eh bien, ce dioxyde de carbone a battu un nouveau record de concentration en 2018. Il n'y a aucun signe de ralentissement et encore moins de diminution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malgré tous les engagements pris au titre de l'accord de Paris sur le climat. C'est ce qu'a pointé le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Il s'appelle Petri Tahalas et c'était à l'occasion de la publication du bulletin annuel de cette Organisation météorologique mondiale sur les concentrations de gaz à effet de serre. Ce rapport rend compte non pas des quantités de gaz qui sont libérées dans l'atmosphère, mais en fait de celles qui restent, parce qu'il y a quand même les océans qui vont absorber environ le quart des émissions qui sont produites. Et aussi la biosphère, donc notamment les forêts qui vont absorber, mais il en reste, et il en reste de plus en plus dans l'atmosphère. Selon donc Petri Tahalas, la dernière fois que la Terre a connu des concentrations semblables, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était de 2 à 3 degrés plus élevée, le niveau des océans plus haut de 10 à 20 mètres. En 2018, l'année dernière, l'augmentation annuelle de la concentration de dioxyde de carbone est d'autant plus inquiétante qu'elle est supérieure au taux d'accroissement moyen des 10 dernières années. C'est-à-dire que ça augmente, mais ça augmente de plus en plus vite. Et le constat est le même pour le méthane et pour le protoxyde d'azote. Ces gaz, ils ont un rôle important dans la destruction de la couche d'ozone, cette couche d'ozone qui nous protège des rayons nocifs du soleil. Face à l'urgence climatique, les pays se sont engagés à Paris, il y a 4 ans déjà, à appliquer des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on s'en souvient, mais on se rend compte que les émissions mondiales ne cessent d'augmenter, c'est-à-dire qu'on en produit de plus en plus, ça n'arrête pas. Petri Tahalas a donc appelé lundi les pays à traduire leurs engagements en actes et revoir à la hausse leurs ambitions dans l'intérêt de l'humanité. Rappelons que les 4 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, représentent à plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On nous explique que seule l'Union européenne est en passe de remplir et même de dépasser ses objectifs, selon une étude récente de l'ONG américaine Fondation écologique universelle. Mais bon, ça reste encore à vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est toutes les semaines qu'on en parle, toutes les semaines il y a un article qui nous sensibilise sur ce réchauffement climatique, avec évidemment des conséquences importantes sur un dérèglement climatique, sur la biodiversité, sur aussi un mouvement de population qui vont être concernés par aussi ce réchauffement climatique. C'est à grande échelle et ça vient vite. Toutes les semaines, on en parle. Et ce qui est assez inquiétant quelque part, c'est qu'on ne voit pas déjà une tendance qui freine et encore mieux qui ralentit, mais et on ne voit pas non plus nécessairement de grandes dispositions qui sont mises en place pour essayer de contrer tout ça. Mais donc voilà, encore une nouvelle étude, et là c'est même l'ONU cette semaine, en début de semaine, qui a alerté encore et toujours. Dernière information dans cette émission Biotine, parce que moi je pensais que on pouvait identifier un suspect quand on avait un cheveu, mais qu'il fallait que ce cheveu ait de l'ADN, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait un petit peu le, comment dire, un petit peu le bulbe, le follicule pileux, pardon, au bout, parce que sinon ça ne marchait pas. On l'a vu plein d'épisodes des experts qui nous parlaient de ça. Eh bien, on sait que l'ADN fait aujourd'hui figure de preuve vraiment importante en matière de police scientifique. Eh bien, on se rend compte que cette méthode n'est pourtant pas infaillible, parce que l'ADN peut être lui-même contaminé par simple contact ou faire l'objet d'une présence fortuite. Surtout, on ne dispose pas toujours de suffisamment d'ADN pour établir une probabilité suffisante de correspondance. Et donc, ces dernières années, les experts scientifiques ont donc essayé de suivre une autre méthode qui est basée, elle, sur le cheveu. Le cheveu, en tant que tel, il est dépourvu d'ADN quand on n'a pas le follicule pileux qui est rattaché. En revanche, il est constitué de kératine, qui est une famille de protéines dont les séquences d'acides aminés qui vont constituer cette protéine dépendent du type de cheveux et sont spécifiques à chaque personne. Et donc, en comparant ces séquences d'acides aminés avec des bases de données existantes comme les bibliothèques génétiques, eh bien, on peut en déduire le sexe, l'âge, l'origine, la masse corporelle du suspect. Cette technique d'identification souffre cependant d'un gros problème, parce que pour extraire les acides aminés, il faut chauffer et broyer le cheveu plusieurs fois, ce qui dénature malheureusement encore une grande partie des protéines. Du coup, il ne reste pas toujours suffisamment de matière pour détecter un nombre de variations qui va permettre d'établir l'identification et donc le tueur. Le cheveu est un indice particulièrement intéressant pour les enquêteurs. D'abord, il est très fréquent d'en trouver sur une scène de crime. Il faut savoir qu'on perd chacun en moyenne 50 à 150 cheveux par jour. C'est quand même important, vous ne vous rendez pas compte. Ça fait peur. D'autre part, les protéines se conservent bien plus longtemps que l'ADN. L'ADN qui, lui, se dégrade rapidement en présence de chaleur ou d'humidité. Enfin, l'analyse du cheveu permet de confirmer une preuve ADN lorsqu'on ne dispose pas de suffisamment de matière pour un test fiable. Donc une équipe de chercheurs affirme aujourd'hui avoir résolu ce problème grâce à une méthode décrite dans le journal Our Forensic Sciences. Cette technique d'extraction consistant à chauffer les cheveux dans une solution détergente, ça ne nécessite qu'une seule étape, et on n'a même plus à broyer le cheveu, donc c'est mieux. On peut ainsi isoler une quantité suffisante de protéines à partir d'un morceau de cheveu d'un centimètre à peine, et donc il y a une sensibilité 8 fois supérieure à celle des techniques qui étaient utilisées habituellement, dont on avait vu que c'était quand même pas toujours génial. Les chercheurs ont également découvert de nouveaux éléments constitutifs des protéines qui diffèrent selon les individus, car elles sont construites en fonction du code génétique de chacun. Donc si on va pouvoir avoir ces éléments des protéines, on va pouvoir essayer d'avoir une carte, alors pas nécessairement une carte génétique, mais en tout cas une carte héréditaire, une carte de protéines de l'individu. Une recherche dans une base de données actuelle permet d'identifier seulement 11% des peptides, mais qu'avec cette nouvelle technologie, on pourra en arriver à 75%. Alors, attention, on est encore loin des tribunaux de justice, bien sûr. Cette nouvelle méthode d'extraction prend du temps, plus d'une journée, donc effectivement, faut pas être pressé, et ça nécessite une technique et une expertise sophistiquée. On ignore aussi dans quelle mesure ces marqueurs capillaires, ces cheveux, peuvent changer selon l'âge ou peuvent être bien sûr altérés, parce que si vous faites une coloration de cheveux, évidemment, ça doit aussi avoir un impact. Bref, c'est pas totalement fiable, mais c'est une piste intéressante. Mes enfants, faites attention la prochaine fois si vous faites un délit. Couvrez-vous la tête. En fait, il faut y aller en combinaison complète. Voilà, donc c'est un petit peu encombrant. Vous n'êtes pas toujours libre de vos gestes. Mais bon, ça permettra peut-être de vous sauver. Je suis en train de vous dire en direct sur Graphite comment faire pour ne pas être pris par la police. Mon Dieu, je vais être arrêté bientôt par le CSA. J'en suis désolé. C'est la fin de cette émission Biotine. Tous les samedis entre 12h et 13h, nous parlons de l'actualité scientifique dans tous les domaines, comme vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission, et on continuera, voilà, à nous intéresser à l'actualité scientifique, technique et médicale. Je vous souhaite de passer une bonne journée où que vous soyez ce 30 novembre, et on se retrouve samedi prochain à 12h. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble de nos émissions. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.